Bah justement, peut-être, voilà, parlons effectivement de ces peintres. Alors aussi, c'est une question peut-être un peu simple, mais pourquoi est-ce qu'on dit, comme on a pu dire, les primitifs flamands, pourquoi on parle de primitifs allemands pour ces peintres?
Alors, on parle de primitif, c'est un terme qui est très proprement français et qui est d'ailleurs parfois mal perçu et mal vécu. C'est vrai que pour des Allemands, quand on parle de primitif allemand, ils se sentent presque offusqués. On n'est pas primitif. En fait, c'est un héritage d'une appellation qui vient de l'historiographie française pour qualifier les Italiens avant tout. C'est-à-dire que la réhabilitation du Moyen-Âge, en tout cas en peinture, a commencé par les Italiens. On leur a rendu leur place, on a commencé par s'y intéresser à la fin du XVIIIe siècle. Et les premiers Français qui écrivent parlent vraiment de primitifs italiens. Et après, c'est quelque chose, c'est une terminologie qui permet de qualifier finalement la peinture avant la Renaissance. Alors, il faut se rappeler qu'il y a l'idée, en fait, dans l'histoire de l'art, de manière générale, d'un cycle qui part du Moyen-Âge, vécu comme un peu la préhistoire, c'est-à-dire quelque chose qui, finalement, est en préparation, qui n'est pas achevé, qui n'est pas parfait et qui va aboutir à la perfection de la Renaissance. Et donc, les primitifs, c'est ceux qui préparent, en fait. Hein. Alors, on a parlé d'italien, et puis après, par analogie, on a parlé de primitifs flamands et de primitifs allemands, mais il faut se rappeler que, par exemple, en Allemagne, on parle de Altdeutsche Malerei. Il n'y a pas cette connotation Alt Deutsch, ça veut dire simplement des vieux Allemands, et qu'en anglais, on parle de early painting, c'est-à-dire, voilà, c'est ceux qui ont commencé, mais il n'y a pas cet aspect qui peut être considéré comme une connotation péjorative.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que là, vraiment, et j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on voit vraiment le côté, ben, le Moyen-Âge, période sombre et tout ça, on voit qu'on a un peu hérité de cette sémantique, on en reparlera tout à l'heure de l'historiographie qui a eu lieu, en fait, un peu au 19e siècle, de la vue de cette œuvre. Alors, vous avez déjà tout à l'heure cité le nom d'un de ces peintres, est-ce qu'on peut citer d'autres noms de ces peintres primitifs allemands?
Oui, on peut en citer plein.
Non, parce qu'on a un peu l'idée parfois qu'on a plein de peintres anonymes, qu'on manque en fait de personnalité, alors que là, non, là, on a des noms.
En fait, il faut bien voir la nuance. C'est pas parce qu'on n'a pas les noms qu'on n'a pas les peintres. En fait, chacun se distingue avec un style et une personnalité artistique différente. Et on a dans les archives, en fait, pas mal de noms de peintres qui sont enregistrés administrativement. Néanmoins, parfois, c'est vraiment difficile de faire la jonction entre ces noms qu'on connaît et les œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous.
Elles sont pas forcément signées, c'est ça?
Elles sont très rarement signées, en fait. La pratique de la signature, c'est quelque chose qui va justement se développer, grosso modo, à partir de la Renaissance, où l'artiste va vraiment prendre conscience, voilà, de sa place et la revendiquer. Avant, le peintre est plus ou moins un artisan, en fait, on lui passe commande et donc il exécute ses commandes et en fait, on sait qui c'est, il n'a pas besoin de signer son œuvre. C'est-à-dire que si une congrégation religieuse ou un notable passe commande d'un retable à un artiste et qu'il est satisfait, il va faire la promotion, parfois à une échelle locale, parfois à une échelle un peu plus grande, mais la réputation des artistes n'a pas besoin d'être revendiquée par cette marque qu'on trouve en bas des peintures. Alors, c'est vrai que pour les peintres du Moyen-Âge, il y a beaucoup d'anonymes, parce que soit on a entièrement perdu la trace, soit on n'arrive pas justement à retrouver à qui ça correspond.
Ou à identifier, quand on sait qu'on en a peintre, mais on n'arrive pas à savoir lequel c'est.
Voilà, ouais. Donc en histoire de l'art, il y a cette chose que moi je trouve très amusante, c'est les noms de conventions. Les noms de conventions, c'est-à-dire donc, en fait, de distinguer les œuvres les unes par rapport aux autres en baptisant ces peintres anonymes dont on connaît ni nom ni prénom. Alors, dans l'exposition, il y en a pas mal. Et donc, généralement, on se base sur une œuvre de référence. Donc, en haut, dans l'exposition, vous avez le maître du retable Lezel, donc celui qui a peint le retable Lezel. Il y a aussi un peintre qui fait l'objet d'une section assez importante dans l'exposition colmarienne. C'est le maître des études de draperie, qui est un peintre strasbourgeois, mais dont on ne connaît pas l'identité, mais qui a beaucoup travaillé sur ces fameuses études de draperie. Et dans l'exposition, on a la chance d'avoir deux dessins qui sont aussi présentés et qui justifient pourquoi il a été baptisé ainsi. Alors, il y en a des tonnes. Donc, sur Wikipédia, pas en français, mais en allemand, vous pouvez aller sur la page Notnamen, donc qui est la traduction de nom de convention, et alors vous avez une liste absolument incroyable par ordre alphabétique. Et parfois c'est un peu compliqué parce qu'ils ont été, à une certaine époque, ils ont été baptisés avec un certain nom, puis rebaptisé avec un autre nom, et puis en fait c'est la même personne. Donc il n'y a pas d'exemple dans l'exposition à Colmar, mais à Dijon, du maître du livre de raison qui est en fait le même que le maître du cabinet d'Amsterdam, pour simplifier les choses. Et en travaillant sur la peinture allemande, il y a aussi quelque chose avec Isabelle sur laquelle on a eu pas mal de débats, c'est que il y a certains peintres germaniques donc qui sont étudiés que dans l'historiographie germanique, et donc en fait ils n'ont pas de nom français. Donc il a fallu traduire ces noms de convention, et bon, pour ceux qui connaissent l'allemand, voilà, c'est pas toujours évident parce que l'allemand permet de condenser certains mots, ce qui en français nous donne parfois le maître du retable de Sainte-Barbe de Vauclos. Donc c'est toute une succession de noms. Mais bon, voilà, c'est quelque chose de très pratiqué. Mais on a aussi des stars. Voilà, c'est ça, j'y viens. Donc il y a aussi des artistes qui ont réussi à passer voilà, la barrière du temps, dont la renommée a survécu jusqu'à aujourd'hui. On est ici à Colmar, donc on ne peut pas ne pas parler de Martin Schongauer, qui est quand même la star locale ici. On connaît la maison, en fait, l'emplacement de l'atelier à Colmar, un peu plus loin, rue Schongauer.
Hein. Oui, c'est pratique.
Oh, oui, voilà, c'est toute une surprise. Et voilà, donc, mais avant Schongauer, c'est un peu difficile de connaître le nom des peintres. Il y a un autre exemple qui est connu ici, c'est Caspar Isenmann, qui est aussi un peintre colmarien et qui apparaît dans les documents. Là, un document très intéressant qui est la commande du retable de la collégiale Saint-Martin. Donc là, on a vraiment ce type de document qui connecte un artiste, une œuvre et un nom. Et ensuite, quand on va plus loin dans l'histoire, alors voilà, on a ici aussi une belle section consacrée à Hans Baldungrin, qui est donc actif à Strasbourg au début du XVIe siècle, et un de mes préférés, voilà, en toute objectivité.